France Inter.
Réalisateur, écrivain et acteur, Lucas Bellevaux a tourné pour Yves Boisset, Jacques Rivette, Claude Chabrol, Marco Ferreri, Régis Varnier, Olivia Assayas ou Chantal Akerman. Sa première réalisation, Parfois trop d'amour, sort en 93. 10 ans plus tard, il réalise la trilogie Un couple épatant, Cavale et Après la vie, trois films dont les actions s'entrecoupent et racontent les mêmes événements, respectivement sur le mode comique, policier et dramatique. Il signe également Et dans le désordre, Pas son genre, Rapt, La raison du plus faible, Pour rire, Chez nous ou 38 témoins, dans lesquels il explore autant le champ social qu'intime ou politique. En 2022, troisième casquette avec la publication de son premier roman, Les Tourmentés, qu'il vient justement d'adapter pour le cinéma et qui sortira le 17 septembre. Il y raconte l'histoire de Skender, interprété par Nils Schneider, qu'un ancien camarade de Légion, joué par Ramzi Bedia, présente à la riche veuve dont il est devenu le majordome, veuve incarnée par Lindan Pham. Cette dernière est passionnée de chasse et cherche un gibier suffisamment excitant pour la sortir de son ennui. En échange d'un salaire mirobolant, Skender accepte le marché pour un mois. S'il s'en sort, il touchera l'argent. S'il périt, la somme reviendra à ses deux fils et à son ancienne compagne qui a coupé les ponts avec lui, meurtrie par ses fréquentes disparitions. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Lucas Bellevaux.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Un chien que j'ai croisé sur un trottoir. Je me suis vraiment... trouvé
sympathique. Vous ne pouvez pas me rendre plus heureuse qu'avec cette réponse. Pourquoi ? Il frétillait ? Il avait un beau pelage.
Une démarche, il était sautillant, léger et heureux comme peuvent être les chiens.
Vous l'avez caressé ?
Non.
Vous lui avez parlé ?
Non plus. On s'est croisés, c'est tout.
Vous n'avez pas échangé vos cartes de visite ?
Non.
D'accord, bon. Il paraît que vous étiez un cancre à l'école.
J'étais pas vraiment un cancre, j'étais un mauvais élève. C'est-à-dire que il y avait des choses qui m'intéressaient, j'étais bon élève dans ces matières, et des choses qui m'intéressaient pas. Je regardais par la fenêtre, ce qui se passait dehors m'intéressait souvent plus. Je sais pas, j'ai un sentiment étrange. Je regrette aujourd'hui de pas avoir appris plus, de pas m'être intéressé plus. Mais voilà, je pensais à autre chose.
Vous avez quitté la Belgique pour Paris à 17 ans. C'était une fugue en autostop ?
Oui. En hiver, il y avait de la neige. Et ce qui est marrant, c'est que la première voiture qui s'est arrêtée, c'était un de mes profs, un prof de musique, qui s'est demandé ce que je faisais là. Et j'ai dit, il y a une grève. J'ai un prof malade. Enfin, j'ai menti et j'ai dit, je vais voir quelqu'un à l'hôpital. Et puis voilà.
Il vous a emmené ?
Ouais. Enfin, il m'a emmené 20 kilomètres, quoi. Il m'a dit, ah bon ? Mais je pense qu'il n'était pas très, très sérieux non plus. Il a bien dû se douter que c'était un mensonge.
Et ça, c'était pour devenir comédien ?
C'était pour devenir comédien,
oui.
Mais c'était pour m'enfuir aussi. Une fugue, c'est aussi pour s'enfuir.
Bah, souvent, oui.
C'est d'abord pour ça.
Qu'est-ce que vous vouliez fuir ? Je peux vous le demander ?
Oui, la vie que je vivais, ça, l'école, voilà, la région où j'étais, qui ne m'amusait pas beaucoup. Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est à Paris que ça se passait. Non, ce n'était pas Namur, c'était la campagne, c'était la province de Namur. Je suis né à Namur, mais j'ai grandi dans la campagne, quoi. Donc, il n'y avait pas grand chose, en fait. Donc voilà, j'avais envie surtout d'être acteur. Et j'avais envie de Paris, parce qu'à l'époque, pour être acteur, c'était Paris. Pour un francophone, en tout cas.
Il paraît qu'à Paris, vous vous comportiez comme dans votre village et que vous saluiez tout le monde. C'était pas trop difficile, comme contraste ?
Pas tout le monde, hein, pas tout le monde. Mais oui, quand je croisais quelqu'un dans la rue, par exemple, le soir, quand je rentrais du cours et que je rentrais un peu tard le soir, il y avait peu de monde dans les rues. Et donc, quand je croisais quelqu'un, je disais bonsoir, oui. Et il y a des gens à qui ça faisait peur. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé, ça. Autant dans mon village, ne pas dire bonsoir, ça pourrait faire peur. Autant à Paris ou à Clichy, en l'occurrence, ça faisait peur aux gens.
Dans votre film Pour rire, vous racontez l'histoire d'un homme qui découvre que sa femme a un amant et donc il fait une fausse tentative de suicide en se jetant dans la Seine sous les yeux de l'amant. Évidemment, l'homme le sauve. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de mentir pour parvenir à vos fins ?
Non, je ne suis pas très menteur, en fait. Et je mens mal.
Il paraît que vous êtes un angoissé notoire, c'est vrai ?
notoire, je ne sais pas, mais je suis assez angoissé, oui. Moins.
Comment vous apprivoisez l'anxiété ?
En essayant d'anticiper ce qui peut advenir.
Le pire ?
Pas forcément, mais en tout cas la difficulté, oui, les difficultés. Donc sur un film, par exemple, je vais beaucoup préparer, je vais beaucoup découper, je vais probablement trop découper en amont, trop préparer, pour éventuellement pouvoir lâcher après, mais je m'angoisse, oui.
Et ça vous rassure de trop préparer ?
Préparer me rassure, oui.
Moi, je fais pareil pour les émissions.
Bah oui, et donc ça se passe bien en général. Mais à l'école, en revanche, je ne préparais pas assez, ça se passait moins bien. Donc c'est sans doute de là que j'ai appris qu'il fallait mieux préparer ce qu'on avait à faire.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Lucas Bellevaux, vous avez signé de nombreuses adaptations littéraires pour le cinéma, Laurent Mauvignier pour Des Hommes, Est-ce ainsi que les femmes meurent de Didier Descoings pour votre film 38 témoins sur le meurtre d'une jeune femme au Havre, Philippe Villain pour Pas son genre. Les Tourmentés, c'est l'adaptation de votre propre roman multiprimé, dont le prix Claude Chabrol, mais on parlera de Claude Chabrol un peu plus tard. Est-ce que c'est plus difficile de s'adapter soi-même ?
Oui. Oui, parce qu'on a moins de distance par rapport à l'objet. Quand on adapte le roman de quelqu'un d'autre, il y a une espèce d'évidence. On adapte les livres dont on a l'impression qu'ils nous sont adressés. Je me souviens d'un copain qui aimait beaucoup le cirque et la montagne et qui avait trouvé un bouquin de Ramuz qui parlait de cirque et de montagne. Donc voilà. Et donc, en revanche, dans un livre qu'on a écrit, il y a plein de choses qui sont là, presque malgré nous, inconsciemment en tout cas, et qui ne sont pas nécessairement utiles à l'avancement de l'histoire. Donc on peut couper dans un scénario, puisque adapter, c'est beaucoup couper. Hein. Et couper des choses qui sont là malgré soi, donc c'est forcément des choses intimes, des choses auxquelles on tient. Déjà les débusquer, et puis ensuite accepter de les couper, c'est plus dur chez soi que chez les autres.
Welcome to my poor fortress. I am Count Zaroff. Here on my island, I hunt the most dangerous game.
J'adore les accents de vampires, donc j'en passe dès que je peux, mais là il ne s'agit pas de vampires. Il s'agit des Chasses du Comte Zaroff, un film de 1932 d'Ernest B. Schoetzack et Irvine Pichel, sur une chasse à l'homme faite pour le plaisir sadique de celui qui l'initie. Et j'ai débusqué cette idée grâce au journal Le Monde qui parlait de vous, Lucas Bellevaux. Est-ce vrai que vous êtes en partie inspiré de ça pour écrire Les Tourmentés ?
Oui, bien sûr. C'est un classique du cinéma d'horreur. Et j'avais eu, il y a une dizaine d'années, l'envie de l'adapter pour faire un film de genre. On se dit qu'un film de chasse à l'homme, ça ne demande pas beaucoup d'argent. C'était trois personnes dans la forêt, donc il n'y a pas beaucoup de décors, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Donc je m'étais dit, ça c'est une bonne idée. Et puis j'ai eu d'autres films à faire, enfin je me suis intéressé à d'autres choses. Mais l'idée est restée. Et au moment d'écrire, enfin c'était pendant le confinement, donc j'avais envie d'écrire, en même temps j'avais pas envie d'écrire un scénario, parce que je sortais de Des Hommes. Enfin on avait terminé le film 15 jours avant.
Sur la guerre aussi.
Aussi. Et tout à coup, j'avais vraiment envie d'écrire. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment d'écrire un roman. Et je me suis dit, mais pourquoi pas reprendre cette idée des Chasses du Comte Zaroff, qui à l'époque aussi était une adaptation déjà d'un roman, enfin, ou une nouvelle, un roman court, et qui s'appelait The Most Dangerous Game, le jeu le plus dangereux. On dit que l'homme est le gibier le plus dangereux. Donc une chasse à l'homme, c'est le jeu le plus dangereux. Et donc j'ai commencé à me dire, je vais écrire un thriller, un roman noir, avec une chasse à l'homme. Et puis plus j'avançais dans l'écriture, et moins cette histoire de chasse à l'homme m'intéressait, en fait. Je me suis dit, il y en a eu tellement bien faites, etc. Est-ce que j'ai vraiment envie de raconter ça ? C'était pas si évident. En revanche, ce qui m'intéressait, c'était l'idée de ce que peut produire un contrat qui comme celui-là, qui induit une chasse à l'homme, sur les individus que ça implique. Et donc ça m'intéressait beaucoup.
Alors ça, on va en parler évidemment, mais j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que justement, des hommes, c'était sur la guerre d'Algérie. Là, les deux, il y a trois personnages principaux dans Les Tourmentés, mais les deux hommes, ce sont d'anciens légionnaires qui sont traumatisés par la guerre. Et adolescent, votre premier rôle, c'était dans Allons enfants d'Yves Boisset, aux côtés de Jean Carmet, et vous étiez dedans placé à 13 ans dans un lycée militaire par votre père de force. Qu'est-ce qui se passe avec la guerre, Lucas Belbourg?
Ah mais ça c'est une de mes marottes, c'est une obsession, j'y pense beaucoup parce que je pense que les hommes ou les garçons sont programmés depuis depuis Homère, enfin ou même avant, enfin depuis que l'humanité existe, on demande aux femmes de faire des enfants et aux hommes de faire la guerre pour des raisons X. Et jusqu'à ma génération ou un peu après, on faisait le service militaire, on nous mettait un peu dans la tête quand même que tôt ou tard, finalement, il faudra accepter d'aller mourir ou tuer, d'ailleurs, pour la patrie, pour des raisons qui parfois nous échappent. Et je pense que je suis belge, je suis né belge, j'ai grandi en Belgique, même si maintenant je suis français, je vis en France depuis très longtemps. Mais la Belgique, c'est un pays qui a été occupé quand même deux fois, longtemps, où il y a eu beaucoup... Enfin, la guerre a laissé des marques très très profondes. On n'est pas très loin non plus de Verdun, de ces endroits-là. J'ai un grand-père qui m'amenait sur les champs de bataille, Et donc ce truc-là m'intrigue, quoi. Et donc, en lisant l'Iliade, je me suis dit, mais ça fait 4000 ans que ça dure, quoi. Ça fait 4000 ans que les hommes font qu'on programme les garçons pour faire la guerre et que ça les détruit aussi. Ça les détruit même en temps de paix.
Dans vos films, on voit bien que vous vous intéressez justement à la violence, à la barbarie, à certains faits divers qui ont été très très violents, et aussi à l'amour, qui est quand même régulièrement mis en scène dans vos films. Et le fil rouge, j'ai l'impression que c'est le fait qu'on ne peut jamais connaître parfaitement quelqu'un. Les gens sont mystérieux jusqu'au bout.
Oui.
Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui les meut?
Il y a quelque chose d'irréductible en chacun, je pense, et quelque chose auquel on n'a pas accès. Il y a des souffrances ou des en général c'est des souffrances. Enfin, il y a des choses qui sont profondément enfouies. Mais ce qui nous fonde, je pense, on n'en est même pas toujours conscient. Et donc, comment un autre pourrait l'être? Et donc, je pense que oui, qu'il y a du mystère en chacun et qu'il y a, il y a des choses qu'on garde pour soi, tous.
Vous pensez que vous vous connaissez bien?
Je suis pas sûr, je crois, mais enfin, comme chacun, enfin, je suis pas sûr qu'on se connaisse vraiment chacun.
Alors le film commence, on voit Neil Schneider, Skander, qui sort d'une cabane dans un bois, qui va dans un magasin de jouets. On ne sait absolument pas ce qu'il fait, ni d'où il vient, si c'est un SDF ou un fou. Vous l'emmenez chez le coiffeur assez vite, et je vous remercie, vers 11 minutes. Et vous, dans La raison du plus faible, vous jouiez un ancien taulard traqué par la police en errance. Est-ce que vous avez un intérêt particulier pour la marge?
Dramatiquement, oui. Dans la vie, elle m'intéresse socialement, elle peut m'intéresser psychologiquement, parce que je pense pas que la marge à ce point-là vienne de nulle part. Enfin, c'est pas que les hasards de la vie qui font ça. Il y a quelque chose, je pense, de plus enfoui, de plus secret, de plus profond qu'on connaît pas forcément.
Vous êtes intéressé à l'affaire Rampin, c'était l'enlèvement d'un riche homme d'affaires belge dans Rapt. Et ce qui vous intéressait dedans, c'était de parler de la barbarie à partir d'un personnage antipathique. En fait, c'est ça qui vous intéresse, qu'on voit d'ailleurs dans beaucoup de vos films, c'est l'ambiguïté, c'est-à-dire on ne sait pas si quelqu'un est monstrueux, enfin en tout cas il ne l'est pas absolument, ou angélique, il n'y a aucun des deux, il y en a certains d'ailleurs, on ne sait pas du tout ce qui les meut.
Mais quelque part on s'en fout, enfin je dirais que moi je m'en fous.
C'est vrai je me suis posé la question.
Non, mais je m'en fous pas, mais le qu'un homme soit monstrueux ou pas, etc., on n'a pas à lui couper un doigt, on n'a pas à le torturer, on n'a pas à le tuer, etc. Peu importe. Je me souviens qu'à l'époque où Rapt est sorti, il y a des gens qui m'ont reproché tout à coup de m'intéresser ou de compatir pour Rampin, enfin, ou un personnage équivalent, sous prétexte que c'était un grand patron, etc. Oui, peut-être. Et peut-être il a licencié. Il a été témoin au mariage de Jean-Marie Le Pen. Il avait quand même des tendances qui sont très, très éloignées. Il n'empêche que c'est un homme et qu'on qu'on ne fait pas ça à un homme, c'est tout. C'est comme la peine de mort. Moi, je suis contre la peine de mort dans tous les cas. Quand je vois ce qu'on fait à Saddam Hussein, à Kadhafi, à Ceausescu, qui sont, on pourrait dire, des monstres absolus. Enfin, c'est à peu près ce qu'on peut faire de pire comme humanité. Eh ben, c'est à nous de reconnaître quand même leur humanité et de ne pas leur faire subir ce qu'on leur a fait subir.
Dans Chez nous, par exemple, vous vous intéressez à la diabolisation de l'extrême droite et à sa dédiabolisation, d'ailleurs. Et vous avez cette réflexion très intéressante, d'ailleurs, puisque vous avez été interrogé à l'époque de la sortie du film sur la montée de l'extrême droite, c'est qu'il faut écouter l'altérité. En fait, c'est en ne l'écoutant pas que les extrêmes montent.
Bien sûr. Mais enfin, bien sûr.
Mais bien sûr, mais en fait, aujourd'hui, c'est ce que je pense, on écoute peu l'altérité.
Bah, plus personne n'écoute personne. Hein. En ce moment, mais on est dans enfin, l'empathie, se mettre à la place de l'autre, écouter ce qu'il a à dire. J'ai l'impression que c'est fini, quoi. Et qu'il y a plus de, il y a plus que du combat, de l'affrontement. Cette idée qu'il faut. On ne discute plus, on n'échange plus et on essaye de détruire l'autre. C'est du combat, c'est de la boxe. On ne s'arrête que quand l'autre est par terre et qu'on n'essaye plus de convaincre, on essaye d'imposer ses idées et à tous les niveaux. Et donc, ça devient compliqué. Je ne sais pas où on va comme ça.
Bon, alors moi, je ne sais pas où vont vos personnages au début du film, les tourmentés. D'ailleurs, à la fin, il y a encore du mystère, mais c'est très bien comme ça. On voit que c'est à dessein. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur un des personnages les plus opaques, qui est Max, interprété par Ramzi Bedia, qui travaille donc pour cette riche veuve qui n'embauche que des légionnaires. Pourquoi est-ce qu'elle n'embauche que des légionnaires ?
C'est Max qui embauche les autres. Elle a rencontré Max dans une vente aux enchères où il faisait la sécurité. C'est pas raconté dans le film, c'est raconté dans le livre. Mais donc elle rencontre Max, elle l'embauche parce que c'est une rencontre. C'est parce que c'était lui et parce que c'était moi. Enfin, il y a une espèce de reconnaissance mutuelle. Et tout à coup, elle va lui demander de trouver d'autres personnes pour travailler pour elle. Et Max ne fait confiance qu'à des légionnaires, parce que lui était sous-officier de la Légion, et que les gens qui la confiance, parce qu'ils partagent les mêmes choses, les mêmes principes, les mêmes valeurs, comme on dit aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment des valeurs, mais en tout cas, ils partagent des trucs ensemble, et donc lui va aller chercher d'anciens légionnaires, oui.
Mais lui a l'air très très proche de Skender, donc son ancien camarade de Légion, et pourtant, on a l'impression parfois, alors que Skender le considère comme un frère, qu'il est contre lui, on ne sait pas trop.
En fait, Max, il va le présenter à Madame pour... c'est une espèce de trahison quand même, il l'envoie à la mort en le présentant à Madame, mais parce que il a basculé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de conflit de loyauté et que tout à coup, la loyauté envers Madame prend le pas sur la loyauté envers Skender. Et que ce qu'il veut donner à Madame... c'est le meilleur gibier du monde, parce qu'elle le mérite. Et que pour lui, Madame est au-dessus de tout. Elle a changé sa vie, elle lui a rendu quelque part son humanité. C'est-à-dire qu'il est conscient de ça. Elle lui a fait comprendre qu'il était un être sensible, ce dont il n'était pas intimement persuadé avant. Il se vivait comme un guerrier, un tueur, ou de la chair à canon, ou ce qu'on veut, mais en tout cas pas un être vraiment sensible qui pouvait apprécier la beauté. Madame lui a appris qu'il était sensible à ça, qui pouvait être sensible à la beauté, de la musique, de la littérature, ce genre de choses. Et tout à coup, ça a été le plus beau cadeau, peut-être le seul cadeau qu'on lui ait fait de sa vie. Et donc, voilà, pour Madame, il est prêt à tout, et notamment à lui donner Skender en offrande, quelque part. Après, une fois que c'est fait, il va falloir l'assumer, et tout le film, c'est ça. C'est comment chacun assume ses actes et ses choix.
Alors voici les règles de la traque dites par Max.
Ça se passera en Roumanie, dans les Carpates.
Mon mari louait une forêt là-bas pour chasser l'ours. Je l'ai gardé. Vous verrez, c'est très joli et assez grand pour ne pas être dérangé.
Ça fait 10 km par 15. C'est montagneux, il y a une rivière, des torrents. Je te donnerai les cartes de la zone avec les coordonnées de 3 grottes. Elles sont séparées de plusieurs kilomètres. Je les approvisionnerai une fois par semaine, dans chacune. Tu trouveras de quoi tenir 2 jours. T'as pas le droit de chasser, t'as pas le droit de pêcher. Et ça, c'est important. Parce que c'est à partir de là qu'on mettra les chiens sur ta piste. T'auras une balise au pied qui se déclenchera si t'essayes de sortir du périmètre. Évidemment, tu n'as pas le droit de t'armer. Pas de pierre, pas de pieu, pas de gourdin. Rien.
Mais vous pourrez vous défendre. Charger, par exemple. Comme les buffles ou les éléphants. Et frapper. Avec les poings, la tête, les pieds. Jusqu'à ce que mort s'en suive, si vous voulez.
C'est pas ce qui était prévu, madame.
Je sais, mais c'est dit. Et ce qui est dit est dit, n'est-ce pas ?
Alors là, on entend les règles de la traque que va accepter le personnage de Skender. Je me suis demandé si ce qui liait ces trois personnages et ce qui justifiait le fait qu'il accepte cela, c'était pas un désespoir qu'ils auraient tous les trois en commun. En fait, j'ai pensé au Salaire de la peur de Georges Arnaud, adapté par Clouzot notamment, vous savez, où on demande à des types de... En fait, les types les plus désespérés au monde, je le dis pour les auditeurs, parce que vous connaissez le film, évidemment, de transporter par camion de la dynamite très sensible.
La nitroglycérine.
Oui.
Oui, c'est ça. Ils sont liés par le désespoir. En fait, moi, je les ai toujours envisagés comme des spectres. Enfin, comme ils sont morts. Il n'y a plus aucune pulsion de vie. Il n'y a plus de libido. Il n'y a plus d'envie. Plus de goût. Plus de rien. Et donc, la vie ne les intéresse plus. Et donc, la mort a pas plus. Le livre commençait par cette phrase-là. Hein, la vie, la mort, la même chose. Et pour eux, c'est ça. La vie, la mort, c'est la même chose. Et donc, le film, le roman avant, c'est vraiment l'itinéraire qui va de la mort à la vie. C'est le contraire de ce qu'on voit d'habitude dans les films noirs, où les personnages vont droit dans le mur, inexorablement.
Mais là, vous montrez que tout se marchande. C'est quelque chose que vous avez déjà remarqué, d'ailleurs, dans la société en général. Là, vous allez à l'apogée de ce qui se marchande, la
oui,
vie d'un homme.
Il y a un petit côté fable, mais en même temps, la vie d'un homme, quand on vend sa force de travail, ce qui est le principe quand même du capitalisme, et, on vend un peu sa vie, quoi. Il y avait la fameuse phrase « on ne va pas perdre sa vie pour la gagner ». Donc voilà, c'est gagner sa vie, quoi. Faut la gagner tout le temps. Et là, c'est pousser un petit peu le curseur, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. On voit, par exemple, maintenant qu'on peut se payer en cherchant un peu un tueur qui, pour peu d'argent, ira tuer quelqu'un. On trouve des gens qui sont prêts à vendre des organes et à vendre leur vie aussi. Il y en a. Et on vend sa vie pourquoi ? Toujours pour la même chose, pour sauver ceux qu'on aime.
France Inter. 20e heure, Eva Bester.
That's the last time she ever saw him alive. And that's the last time you'll ever see him alive. What happened to David Kentley changed my life completely and the lives of seven others.
On entend James Stewart dans le film La Corde d'Hitchcock, sorti en 1950. Et je voulais passer un extrait de ce film parce que c'est l'un des moins connus d'Hitchcock. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Lucas Bellevaux.
La Corde, c'est le film en un plan, c'est ça. C'est le cadavre dans la malle.
Exactement, c'est deux étudiants des Beaux-Arts
qui
s'ennuient et qui, pour voir si ça peut stimuler un peu leur vie, font un crime... parfaitement esthétique, voilà. L'art pour l'art. J'ai pensé à ça avec votre film Les Tourmentés, puisque c'est quand même l'histoire d'une veuve qui veut un gibier qui l'excite suffisamment pour sortir de son ennui. Et il y a une ambiguïté, puisqu'on pourrait penser qu'elle est simplement un monstre de cruauté. Mais en fait, vous faites quand même des flashbacks où on comprend aussi... Ils ont tous des traumatismes d'enfance.
Oui. C'est une possibilité. Peut-être que son envie de tuer cet homme vient de ce traumatisme. Et en même temps, c'est pas si sûr. C'est aussi une façon de se mettre à l'épreuve. C'est une espèce de tabou ultime, quoi. Tuer un homme, est-ce que je suis capable ou pas de tuer un homme ? C'est la question qu'elle se pose. Après, il y a toute l'histoire autour de son mari et qu'elle a tué ou pas. Moi, je crois qu'elle ne l'a pas tué. Mais peut-être que si elle l'avait tué, elle n'aurait pas eu envie d'organiser. On sait pas. Tout ça, je préfère le laisser un peu flou, j'ai pas envie de répondre précisément. C'est toutes les pistes qui font que...
Vous faites se côtoyer à l'image la beauté absolue. À un moment, elle feuillette un catalogue de Fra Angelico et la violence absolue. J'imagine que c'est délibéré. On peut être capable d'apprécier les deux, évidemment.
Oui, on le sait, hélas, que la culture ne sauve de rien. On l'a vu à travers l'histoire, on peut... aimer la littérature, la poésie, la musique la plus belle, et organiser des massacres. Et encore aujourd'hui, hein, ça se voit un peu partout.
Alors j'ai remarqué que Max a toujours un livre entre les mains, mais qu'il ne le lit jamais.
C'est vrai. Mais j'ai fait un film où les personnages lisaient beaucoup. Mais là, c'est parce qu'elle ne le laisse pas lire.
Oui, parce qu'elle veut lui parler.
Enfin, il a pas toujours un livre entre les mains. Il y a deux séquences où il a un livre entre les mains.
Mais il ne l'ouvre pas, j'ai remarqué. En tout cas, la question que je me pose, c'est qui est le plus pervers entre les deux ? Celle qui annonce la couleur frontalement, en disant « je veux vous tuer, je vais vous payer pour ça » et ça m'excite, ou celui qui joue tout en douce ?
Qui joue tout en douce ?
Max ne montre pas ses intentions, il fait semblant de... Il ment un peu à son ami quand même pour le piéger.
Non, je ne suis pas sûr, je suis pas sûr qu'il lui mente. C'est-à-dire qu'à un moment il dit c'est entre vous. C'est-à-dire que je te présente à madame et Eskender aura à choisir si oui ou non il accepte le contrat. Mais c'est-à-dire qu'il ne, lui se sent, il le dit, hein, Max, il dit à madame, je ne pouvais pas lui proposer ce que vous voulez lui proposer. Donc ça, c'est sa limite. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, le dire. Donc il se défausse un peu sur elle, ça c'est vrai. Mais c'est pas vraiment doux. C'est-à-dire que quand même, il l'amène là puis il dit débrouillez-vous. C'est entre vous. Moi, je serai l'arbitre.
Mais on sent quand même qu'il préférerait que l'un des deux gagne, je ne dis pas lequel. On voit des fantasmes de violence. Vous mettez en scène des fantasmes de chacun.
C'est des projections. C'est chacun imagine ce qui va se passer. Et par exemple, le premier, je raconte ou je raconte
c'est comme
pas.
Vous voulez. Moi, j'avais pris mais ça pour des désirs, vous voyez.
Ouais, mais c'est pas des.
C'est pas des désirs, c'est ce qui peut
non,
se passer.
Non, je pense que c'est des projections. Qu'est-ce qui c'est
des
vues d'esprit. Oui, ça peut être une angoisse. Ça peut être ce qui passe à travers le premier, c'est ce qui se passe à travers la tête de Max et qui est effectivement une trahison des règles de son copain, etc. C'est pas ce qu'il désire. C'est ce à quoi il pense. C'est-à-dire que quoi qu'il en dise, s'il faut sauver madame, il sauvera madame. Même s'il dit le contraire. Alors oui, par moments, il ment, oui. Mais il ment aussi à madame.
Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est pour ça que c'est le personnage le plus opaque. Il y a un terme qui revient souvent dans vos interviews, Lucas Bellevaux, c'est le cynisme. Et dans ce film, à un moment, il y a cette banalisation de l'horreur. Et elle s'exclame, madame, donc, « Je dois me souvenir que c'est un homme avec des enfants, une famille, une histoire. Ce serait un crime de l'oublier. » C'est-à-dire que pour elle, le crime, c'est pas de tuer un homme, c'est d'oublier cela.
Ça serait un double crime. L'oublier, ça serait le crime ultime. Ça voudrait dire qu'elle le tue pour rien, comme si c'était un animal.
En même temps, ça l'excite aussi de le connaître. C'est-à-dire qu'à un moment, elle dit « C'est dur, je l'ai vu, j'aurais pas dû le voir, ça va rendre les choses plus dures. » Mais ça l'excite.
Non, ça donne de la valeur à la chasse ou au geste. Parce que si c'est le tuer comme un animal, c'est pas la peine de tuer un homme si on le traite comme un animal. Donc elle dit que la vraie valeur de cette chasse à l'homme, cette chasse à l'homme n'a de valeur que si on reconnaît l'humanité de celui qu'on va tuer. Et c'est là où ça devient, où il y a un tabou à transgresser. Si on considère qu'il vaut pas plus qu'un chien ou que n'importe quel animal. Et d'ailleurs, on voit que dans les grands massacres et dans les grands génocides, la première partie, c'est de déshumaniser celui qu'on va tuer. Et donc, ça, c'est le crime absolu ou le début du crime. C'est-à-dire qu'on va dire c'est des poux, c'est de la racaille, ce genre de choses, donc ça n'a plus d'importance. Alors que dire on va tuer un homme, ça devient plus compliqué. Et donc, elle assume ça. Elle se dit, voilà, maintenant je sais qui c'est. Et c'est là où les choses, où les preuves commencent. C'est que celui que je dois tuer, ou que je vais peut-être tuer, ou pas, etc. En tout cas, celui que je vais chasser, c'est un homme, je sais en quoi il est humain. C'est pas une vague. C'est pas comme à la guerre, où on voit une vague silhouette qui vous tire dessus, et on répond, et voilà. Non, là, c'est quelqu'un qu'elle connaît, elle sait qu'il a des enfants, elle sait qu'il a, voilà, une femme, une histoire. C'est un homme.
C'est une perversion raffinée.
Est-ce que c'est une perversion
de payer quelqu'un pour essayer de le tuer?
Je pense que c'est plus une maladie, oui. J'aime pas l'idée de la perversion, en fait. C'est le terme qui... Je sais pas très bien ce que c'est. Enfin, oui, si, je vois bien, mais il y a quelque chose de... En tout cas, chez elle, c'est une névrose.
Ça me va.
Plus qu'une perversion.
J'accepte. Ça ne vous avait pas fait bizarre de voir Ramzi Bedia et Neil Schneider dans la série d'Argent et de Sang de Xavier Giannoli, non? Parce qu'ils étaient tellement à l'opposé de rôles dans lesquels on les revoit chez vous.
Mais c'est le principe des acteurs.
Parfois on projette. Moi j'ai déjà reçu des réalisateurs qui disaient je peux pas embaucher les mêmes acteurs parce que quand je les ai vus dans un rôle marquant, en fait, je ne peux plus projeter autre chose sur eux.
Je dois dire que je n'avais pas vu D'argent et de sang. Donc, mais j'avais quand même beaucoup vu Ramsey et j'avais vu Nils aussi dans des rôles extrêmement différents. Et donc, mais j'étais acteur, donc pour moi un acteur c'est quelqu'un qui peut faire plein de choses différentes et incarner des choses différentes. Si j'ai choisi Ramsey, si j'ai pensé à lui, c'est parce que j'avais croisé dans un escalier et qu'il dégageait quelque chose de tellement différent de ce que j'avais vu ou au cinéma ou à la télé, dans les interviews, tout ça, que ça m'avait beaucoup frappé et que j'avais envie de le faire travailler.
Est-ce que vous auriez accepté le contrat à la place de Skander ?
Je peux pas vraiment répondre à cette question. Je ne sais pas. Ça dépend des. Je suis pas mort. Lui, il est déjà mort. Il se considère comme mort, et donc c'est plus très grave. Mais c'est un ancien légionnaire. C'est un homme qui est allé au combat, au feu, qui a tué, même si c'est à la guerre, c'est pas pareil, et qui est dans une situation que il se considère comme mort. Donc.
Et qui est rejeté par les gens qu'il aime.
Et puis ce qu'il dit à madame, c'est je fais une bonne affaire, puisque dans 15 jours, je me serai sans doute jeté à l'eau. Donc là, au moins, il meurt pour 3 millions.
Avez-vous foi en l'homme ?
J'ai foi en rien, en fait.
C'est vrai ?
Mais oui, parce que je ne crois pas à la croyance. Je pense que la foi, elle a à voir avec la croyance, et que la croyance ne se discute pas. Je suis plus libre penseur. Donc,
on peut avoir foi en la beauté, on peut avoir foi en la poésie.
Oui, mais ça s'arrête là. Enfin,
c'est, en la choucroute
Bah oui, une tartiflette we trust.
Ah bah voilà, enfin.
Mais c'est le terme de foi. Je n'aime pas le terme de foi.
Et alors, est-ce que vous avez une vie spirituelle ? Il y a des gens qui sont parfaitement athées et qui ont une vie spirituelle.
Peut-être pas. Peut-être que je suis purement matérialiste. Et en même temps, je suis assez contemplatif. Donc, je suis actif et contemplatif en même temps. Donc c'est compliqué.
Vous avez lu Lucrèce ?
Non.
Bon, bah c'est un très beau texte matérialiste de la nature des choses.
Je vais lire Lucrèce.
Je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venues de Californie, de Flandre ou bien de Paris. Quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Dans le métal et le bruit, moi je pense à la la tourmente, quand retombe la poussière pesante et que sombre le pays dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie, quand tout semble compromis. Je prendrai la route, mes rails coûte que coûte. Je traverserai la nuit pour rejoindre la cavalerie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage et j'abolirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie.
C'est votre choix musical, Lucas Bellevaux, La Cavalerie de Julien Clerc.
Oui. C'est un disque qui est sorti en 68, ce qui a été sa chance, je crois. Et voilà, moi j'avais envie d'entendre ça, ou j'ai pensé à ça, parce que c'était le premier concert auquel j'ai assisté quand j'étais gamin, c'était un concert de Julien Clerc. Voilà. Et j'avais été ébloui, et il chantait ça à l'époque.
Alors il y a un autre musicien que vous aimez bien, je crois. Ricardo Delfra Jazz Project, Roses and Roots, et je crois Lucas Bellevaux qui l'a composé pour vous, pour notamment pour votre trilogie.
Oui, pour la trilogie. Avant, il avait fait Pour Rire aussi. Il a fait la musique de La Raison du Plus Faible, de Rapt. Oui, on a travaillé beaucoup ensemble. Oui.
Vous aimez le jazz?
J'aime Ricardo Delfra, surtout.
C'est une très bonne réponse.
Il a fait un très très beau disque que je vous recommande avec Annie Ebrel, hein, qui s'appelle Velours de Lune ou Velouto di Luna, qui est un mélange de jazz et de musique traditionnelle bretonne. C'est une merveille.
Ça, c'est presque aussi fou que les cirques et les montagnes.
Absolument.
Je crois, Lucas Bellevaux, que ça, c'est une bande originale qui vous touche beaucoup.
C'est la bande originale de La Grande Bouffe. C'est une musique de Philippe Sard. Oui, ça correspond assez précisément à ce que j'aime dans les musiques de films, c'est-à-dire que c'est d'une simplicité absolue. Ça peut se décliner de plusieurs façons. Ça peut être une musique assez entraînante, et puis tout à coup, ça peut devenir extrêmement mélancolique. Il y a à la fois une mélodie qui imprime, qui imprègne, et en même temps un son très particulier, ce piano. Voilà, et Piccoli dans le film meurt en chantant ça, en jouant ça. J'aime beaucoup, beaucoup ce film. Je trouve qu'il y a un film incroyable. Je suis pas sûr qu'on puisse encore le faire aujourd'hui.
Je pense pas.
Et c'était un film visionnaire. Enfin, c'est un film qui raconte à la fois son époque et ce qui allait arriver après.
Un film à ne pas regarder en mangeant, évidemment. Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs et vous avez choisi un comédien que vous avez fait tourner dans Des Hommes, Félix Kizil.
Oui, bah, Félix, c'est un encore jeune acteur qui était dans Miséricorde avec Catherine Fraud, le film de Guérody. Et c'est un acteur tellement singulier que sur Des Hommes, il m'a, comment dire, j'ai l'impression d'en avoir jamais fait le tour. C'est-à-dire que plus je lui en demandais, plus il était capable de faire des choses extrêmement fines, singulières, inattendues, et que ben voilà, j'ai assez envie de tourner à nouveau avec lui. Puis quand je l'ai vu dans Miséricorde, c'était donc après Des Hommes, c'était encore autre chose. Et j'ai l'impression à chaque fois de voir un nouvel acteur. Il a quelque chose de très singulier, y compris dans le physique, c'est-à-dire qu'il est quelque chose de très beau, de très doux, et en même temps d'inhabituel. C'est pas c'est pas l'Apollon du Belvédère, et en même temps il a dans le visage quelque chose de je trouve de très 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 beau.
Mais c'est vrai que dans Miséricorde, c'est un peu l'inverse d'un théorème de Pasolini. C'est un type qui revient dans un village, tout le monde a du désir pour lui, ou il le force un peu, et
ouais.
Ça se passe pas très bien. Bon, j'en dirai pas plus. Lucas Bellevaux, vous dites parler peu de vous dans les films, mais il y a quand même quelque chose qui ressort, c'est l'idée de bande. Parce que vous avez grandi, enfin je vous laisse nous raconter comment, mais non, enfin si vous avez envie. Les fils de métallo, les cafés, les jeux...
Comment dire ? Non. En fait, c'est presque quelque chose de fantasmé. Enfin, c'est disparate.
C'était dans un internat où vous
travaillez votre père ? Oui, j'ai grandi dans un internat, mais un peu en décalé, puisque j'habitais dans l'internat, mais dans l'appartement de fonction de mon père. Donc, j'étais pas complètement dans le... Alors, oui, les copains d'école, mais en même temps, fils du directeur.
Donc, enfin, oui, fils... l'ennemi.
Oui et non, mais un drôle de statut, un truc très très particulier. Après, c'est la vie de fanfare, je joue de la trompette dans une fanfare, donc là aussi, il y a quelque chose à la fois, un de mes films préférés, c'est Les Virtuoses. Enfin, c'est un des films qui m'a le plus ému dans ma vie, quand j'ai vu les Virtuoses, parce que j'avais connu des choses un peu proches de ça, sans en prendre conscience à l'époque, et encore que, enfin, c'est quelque chose de très très fort, les fanfares comme ça, parce que ça mélange les gens qui normalement ne devraient pas se croiser autour de la musique avec une espèce de grande, d'immense générosité.
Comme c'est-à-dire... sur un tournage?
Pas tout à fait.
Ah oui, mais parce qu'il y a toutes les classes sociales sur un tournage, tout le monde se
mélange. Oui, mais sur un tournage, il y a plus l'idée de... on se retrouve pour travailler. C'est pas un loisir. Dans une fanfare, tout le monde est là pour le plaisir de jouer ensemble. C'est gratuit, on n'est pas payé. Et il y a une espèce de générosité absolue qui est... même s'il y en a un qui joue un peu moins bien, ou s'il y a un gamin qui commence, qui fait le deuxième bugle, qui a un peu à contre-temps, etc., eh ben, on va jamais lui reprocher. Parce que tout le monde est le bienvenu, et que ce qui est important, c'est ce qui relie les gens. Et même si la musique est pas toujours très bonne, eh ben, en tout cas, elle nous a réunis.
Il paraît que vous êtes égalitaire sur les tournages, qu'il n'y a pas de traitement de faveur, et vous avez dit dans une interview, je crois à la lutte des classes comme un fait, pas comme une idéologie.
Oui. Bah oui, c'est comme la tectonique des plaques. C'est pas, voilà, ça existe. Il y a des plaques qui se rendent dedans, qui provoquent des tremblements de terre. Et voilà, on le constate. Et la lutte des classes, c'est la même chose. C'est vous avez des classes avec des intérêts divergents, et chacun va défendre son bout de gras, ce qui est quelque part qui est normal. Mais par moments, ça provoque des fictions qui peuvent être plus ou moins graves selon l'époque. Mais c'est pas une idéologie, la lutte des classes. C'est voilà, c'est comme ça. C'est un fait.
Écoute, Henriette, je t'aime bien. Je vais te dire en secret, mais tu me promets de pas le répéter. Je jure. Je les surveille tous, jour et nuit. Et au premier faux pas qu'ils font,
tu ça,
docteur Morasso. Puis avant, il y avait le boucher aussi.
Mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent?
Non, on sait pas. Nous flanquer dehors, nous chasser de chez nous. Démolir, construire, j'en sais rien. Alors j'espionne.
Oh, les salons.
C'est vous qu'on entend, Lucas Bellevaux, avec Pauline Lafont dans Poulet au vinaigre de Claude Chabrol, sorti en 84. Vous aviez aussi tourné avec lui dans Madame Bovary. Quel est votre souvenir de Chabrol?
Souvenir d'une immense bienveillance et d'une immense intelligence. C'était incroyable. C'était voir travailler Chabrol dans une espèce de bonne humeur. Poulet au vinaigre, c'est un film qu'on a tourné très très vite. Je crois qu'on a fait en 6 semaines. À l'époque, la norme, c'était plutôt 7 ou 8. Et là, ça avançait. On travaillait beaucoup. Et on n'avait pas l'impression. On avait l'impression d'une colo. Alors qu'il maîtrisait tout. Et le film est très 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 maîtrisé, très très fort. Et en le faisant, on n'avait pas l'impression de ça. On avait l'impression de retrouver des copains. Enfin, des nouveaux copains pour moi. C'était la première fois que je travaillais avec cette équipe-là. Mais c'était l'équipe habituelle de Chabrol qui faisait tous ses films.
Vous dites que c'est lui qui vous a appris qu'un tournage devait être heureux.
Oui. Oui, oui, qu'on travaillait mieux dans la bonne humeur, et quand on vient le matin heureux de venir, ben, ça se passe beaucoup mieux quand on a peur de
Clouseau, par exemple.
Bah oui, 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 mais c'est j'ai toujours pas compris. Enfin, c'est une névrose comme une autre, hein, mais c'est de cet ordre-là, oui.
Merci beaucoup, Lucas Bellevaux.
C'est moi qui vous remercie.
Votre film Les Tourmentés sort en salle le 17 septembre, soit mercredi prochain. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Tilaï Ravu.